Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. Commandant de l'armée nationale indonésienne, TNI, a admis que le président lui avait ordonné de former une cyberforce. Partager le vaccin MPOX avec l'Afrique, le ministre de la Santé a déclaré que c'était bon pour la diplomatie. Vice-président a mis l'accent sur la gestion des fonds sociaux selon la charia pour vaincre la pauvreté. Ouganda invite l'Indonésie à investir dans le secteur alimentaire à l'IAF de Bali. Indonésie a conclu un accord d'investissement énergétique de 23,2 billions de roupies lors du deuxième AIF. Président du Rwanda et le ministre de l'Agriculture du Libéria admirent les performances agricoles de l'Indonésie. Indonésie renforce sa coopération bilatérale avec Salomon et le Congo. Bonjour, je vous retrouve voici le nouvel en complet. Le commandant général de l'armée nationale indonésienne, TNI, Agus Subianto, a admis qu'il avait reçu l'ordre du président Joko Widodo de former la cyberforce en tant que quatrième dimension de l'institution TNI. Il a transmis après avoir assisté à une réunion de travail avec la commission 1 du Parlement indonésien au complexe du Parlement à Jakarta mardi 3 septembre. Agus Subianto a déclaré qu'actuellement, le TNI dispose déjà d'une cyberunité. Cependant, selon lui, l'unité cyber sera différente des autres unités de l'armée nationale indonésienne TNI, car elle sera majoritairement composée de personnel civil. À l'avenir, le recrutement de cette unité privilégiera leur expertise. Jusqu'à présent, le TNI a seulement prévu de créer un cybercentre au siège et également dans toutes les dimensions. Selon lui, le recrutement du personnel viendra également des diplômes du secondaire et de l'université. Le projet de l'Indonésie de partager 6000 doses de vaccins contre la variole du singe MPOX avec les pays africains est une forme de diplomatie. C'est ce qu'a déclaré le ministre indonésien de la Santé Budi Gunadi Sadikin après la table ronde du 12e Forum Indonésie-Afrique IAF à Nusa Dua, Bali, mardi 3 septembre. Budi Gunadi a expliqué qu'il avait convenu d'un certain nombre de collaborations dans le secteur de la santé liées à MPOX avec le directeur général des institutions africaines de santé publique, CDC, Jean Cassia. Cette collaboration comprend une subvention de 5 000 doses de vaccin, un Pellex, qui devrait être acheté au Japon. On dit que l'Indonésie n'a pas encore la capacité de fabriquer le vaccin Mpox et que le vaccin n'est disponible que dans deux pays, à savoir le Japon et le Danemark. Le vice-président Maruf Amin a souligné l'importance d'améliorer la gouvernance et la répartition des fonds sociaux de la charia dans les efforts visant à éradiquer la pauvreté. C'est ce qu'a transmis Maruf Amin dans son discours de bienvenue lors de l'inauguration de l'Institut du Centre pour le développement économique de la charia, CED, pour le développement de l'économie et des finances, INDEF, à Jakarta, mardi 3 septembre. Selon le vice-président Maruf Amin, pour y parvenir, la future stratégie de développement économique et financier de la charia se concentrera sur la synergie des quatre piliers principaux. Ces piliers comprennent le renforcement des réglementations et des institutions, l'innovation scientifique et technologique et la numérisation, ainsi que l'augmentation de l'alphabétisation. En outre, le vice-président de la République d'Indonésie a souligné que cet effort nécessite le soutien de toutes les parties, y compris dans la préparation de plans stratégiques pour le développement économique et financier de la charia. L'Ouganda invite les participants du deuxième forum Indonésie-Afrique IAF 2024 à investir dans l'agriculture et le secteur alimentaire, en particulier les produits laitiers en Ouganda, afin d'atteindre la sécurité alimentaire. Cette invitation a été transmise par le ministre d'État ougandais chargé de l'agriculture, de l'industrie animale et de la pêche, Adwa Helen, lors de la 8e séance de discussion de la 2e série de l'IAF qui s'est tenue à Bali mardi 3 septembre. Adwa Helen a en outre déclaré que le gouvernement ougandais a également mis en place des exonérations fiscales pour les investisseurs qui souhaitent posséder des machines de production pour ces produits dans ce pays, outre les produits laitiers. L'Ouganda a également invité les délégués participants de l'IAF à investir dans les produits carnés, le café et le café instantané. Le deuxième IAF se tiendra du 1er au 3 septembre 2024 en conjonction avec la mise en œuvre du Forum de partenariat multipartite de haut niveau, HLFMSP. L'Indonésie a réussi à conclure un accord d'investissement dans le secteur énergétique d'une valeur totale de 1,5 milliard de dollars américains, soit environ 23,2 billions de roupies, lors du deuxième forum Indonésie-Afrique IAF qui s'est tenu à Bali du 1er au 3 septembre. Le directeur pour l'Afrique de la Direction générale de l'Asie, du Pacifique et de l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Dewi Justicia Mediwati, à Nusa Dua Bali, a déclaré mardi 3 septembre qu'il s'agit d'une réalisation prometteuse de l'objectif de l'accord sur les livrables de l'IAF pour 2024 d'une valeur totale de 3,5 milliards de dollars américains. Dewi Justicia a expliqué que plusieurs accords avaient été conclus, notamment la signature d'un contrat de formation entre Pertamina Training and Consulting SA, PTC, avec Petrofon Namibie, qui sera réalisé au Centre intégré de formation en forage, IDTC, en Indonésie. Avec la Tanzanie, Pertamina SA a également obtenu la redistribution de 60% des parts de Wentworth Resources dans le bloc gazier de Mnazi Bay. PLNSA a également collaboré pour développer l'énergie géothermique avec TANESCO et la Société de développement géothermique de Tanzanie, TGDC, avec un objectif de développement de 225 MW à Natron, Luoy et Ngozi. Le président rwandais Paul Kagame et le ministre libérien de l'agriculture Alexander Nueta ont admiré la performance du secteur agricole indonésien en matière d'augmentation de la productivité au milieu de la sécheresse prolongée causée par le phénomène El Niño. C'est le communiqué du ministère rwandais de l'agriculture cité par Antara mardi 3 septembre. Paul l'a transmis alors qu'il était sur le point de quitter l'Indonésie pour retourner dans son pays après avoir participé à une série d'activités du Forum Indonésie-Afrique, IAF. De même, le ministre libérien de l'Agriculture, Alexander Nueta, a également admiré les efforts du gouvernement indonésien pour améliorer l'agriculture. Alexander a déclaré que l'agriculture indonésienne s'était développé de manière extraordinaire, notamment dans l'application de la technologie de mécanisation à la modernisation. Alexander espère que l'Indonésie enverra des experts en alimentation pour aider à développer l'agriculture dans son pays. L'Indonésie, à travers le ministère de la Planification du Développement National, BAPNAS, a établi une coopération bilatérale avec les îles Salomon et la République démocratique du Congo. Le ministre de la Planification du Développement National, chef de BAPNAS, Suharto Manuarfa, après une réunion bilatérale avec les îles Salomon et la République démocratique du Congo à Badung, Bali, a déclaré mardi 3 septembre que l'Indonésie avait soutenu et collaboré avec les pays du région du Pacifique depuis presque 10 ans, et cela va continuer. Depuis 2018, l'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère de la Planification du Développement National, BAPNAS, a apporté son soutien sous la forme de divers programmes de développement dans les domaines du sport, de la santé et de l'éducation aux îles Salomon, dont certains comprennent la construction d'un stade multifonctionnel, la gestion de COVID-19, ainsi que l'augmentation des capacités dans le secteur de la pêche. Suharto a également souligné l'importance de la collaboration pour faire face à l'élévation du niveau de la mer, qui a un impact significatif sur les pays de la région Asie-Pacifique, y compris les îles Salomon. L'Indonésie espère également accroître la coopération dans les secteurs de l'économie bleue et du tourisme, notamment le développement de l'écotourisme durable. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission des commentaires d'aujourd'hui intitulée « Visite du pape François en Indonésie » avec moi Audrey. Chargeur, le chef de l'église catholique romaine, le pape François a commencé sa visite en Indonésie mardi dernier. Il sera en Indonésie jusqu'au 6 septembre. La visite en Indonésie fait partie de la série de tournées du pape François dans la région Asie-Pacifique. Après l'Indonésie, il se rendra au Timor oriental, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Singapour. Pour l'Indonésie, la visite du pape François est la première visite d'un dirigeant catholique mondial depuis la visite du pape Jean-Paul II en 1989. Pour le pape François, il s'agit de son plus long voyage et il doit être très fatigant, étant donné qu'il a 87 ans. Cependant, ce n'est pas la première visite du pape François dans un pays à majorité musulmane. Auparavant, il s'était rendu notamment en Irak, à Bahreïn, en Turquie et au Maroc. Le peuple indonésien a accueilli l'arrivée du pape François avec enthousiasme et convivialité. Le pape et son entourage ont pu constater par eux-mêmes l'hospitalité indonésienne depuis l'aéroport jusqu'à leur lieu de séjour, notamment à l'ambassade du Vatican à Jakarta. Aujourd'hui, le pape François a été accueilli par le président Joko Widodo au palais présidentiel. Jeudi, le pape doit visiter la mosquée Istiqlal à Jakarta, qui est la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. À cette occasion, le pape François signera une déclaration commune avec le grand prêtre de la mosquée Istiqlal qui mettra l'accent sur la déhumanisation, notamment la propagation de la violence et des conflits, ainsi que sur les dommages environnementaux. Le même jour, le pape dirigera une messe à laquelle devraient assister environ 85 000 personnes au stade Gelora Bung Karno de Jakarta. La visite du pape François signifie beaucoup pour l'Indonésie. Même si les catholiques ne sont pas majoritaires dans ce pays, la volonté du pape de faire le plus long voyage et de faire de l'Indonésie sa première étape est une reconnaissance de l'importance de l'Indonésie pour le Vatican. La réponse du peuple indonésien montre au monde qu'il existe une harmonie et une tolérance entre les communautés religieuses. L'Indonésie peut montrer que, même s'il existe différentes ethnies, cultures et religions, le peuple indonésien est capable de vivre en harmonie et dans l'unité. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 septembre 1998. Google est fondé par deux étudiants de Stanford. 4 septembre 1998, Google LLC a été officiellement fondée par Larry Page et Sergey Brin lorsqu'ils étaient encore étudiants en doctorat à l'Université de Stanford, avec pour vision de rassembler les informations du monde et de les rendre accessibles et utiles à tous. Google a débuté en tant que société privée avec un participant de 16% détenu par ses deux fondateurs. Passons maintenant à l'événement du 4 septembre 2003, la Journée nationale du client a été fondée. La Journée nationale du client est célébrée pour honorer et apprécier le rôle important des clients dans le succès des entreprises et des services. La Journée nationale du client est célébrée chaque 4 septembre et a été initiée pour la première fois en 2003 par l'entrepreneur Handi Irawan et inauguré par la 5e présidente de l'Indonésie, Megawati Soekarnoputri. La Journée nationale du client nous rappelle l'importance de fournir le meilleur service aux clients, d'écouter leurs commentaires et d'entretenir des relations solides et positives. Tout cela renforce non seulement la fidélité des clients, mais constitue également une base solide pour une croissance commerciale durable. Thank you. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la conférence de Londres désigne le 4 septembre 2004 comme journée internationale de solidarité avec le hijab. Au début des années 2000, le gouvernement britannique, exactement à Londres, a interdit aux étudiants et à quiconque de porter des symboles religieux de quelque nature que ce soit, y compris le hijab, dans le lieu public. Suite à cette réglementation, une vague de protestation a eu lieu, notamment de la part des femmes musulmanes qui devraient porter le hijab. À la suite de cette vaste protestation, la conférence de Londres a eu lieu le 4 septembre 2004, à laquelle ont participé 300 délégués des 102 organisations du Royaume-Uni et des 35 pays. En conséquence, les femmes musulmanes sont autorisées à continuer à porter le hijab en public. Cette date a finalement été désignée comme jour international de solidarité avec le hijab. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan, dengan mudahnya kau kalahkan. Di detik saat kau katakan ya, oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharap selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, menemukanmu dari dulu. Aku kan selalu ada untukmu, oh. Saat getir dunia mulai datang menyapa, dan apapun yang kan terjadi selalu bersama. Penantianku lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Sejuritok, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre « Le gouvernement indonésien encourage le développement économique grâce aux technologies propres, grâce à la coopération Indonésie-Canada ». Le gouvernement indonésien continue de renforcer sa coopération avec le Canada. L'une d'elles consiste à encourager le développement économique grâce aux technologies propres. C'est l'un des objectifs de la visite de travail du ministre coordinateur des affaires économiques, Airlangga Hartarto, à Vancouver, Canada, le 1er septembre 2024. Citant econ.go.id, Airlangga Hartarto explore et poursuit les technologies propres canadiennes pour accélérer la transition énergétique en Indonésie. Le ministre coordinateur Airlangga a rencontré et échangé des points de vue avec des acteurs commerciaux qui développent l'économie et l'énergie propre au Canada, entre autres Ballard Power, Westport Fuel System, Job Value, Foresight Clean Tech Accelerator et SFO International, lors du forum de la table ronde des entreprises. L'Indonésie est également prête à ouvrir des opportunités de coopération économique à moyen et long terme. Dans un communiqué de presse du 3 septembre 2024, le secrétaire du ministère de coordination des affaires économiques, Susibiono Mugiarso, a déclaré que la coopération entre l'Indonésie et le Canada dans le secteur de l'énergie propre et des technologies propres pourrait inclure plusieurs initiatives stratégiques qui seraient mutuellement bénéfiques. Premièrement, la coopération dans le développement et l'application de technologies liées aux énergies renouvelables. Selon Susi Wiono, le Canada, avec son expérience et son expertise dans des domaines technologiques tels que l'énergie éolienne, l'énergie solaire et le stockage d'énergie, peut aider l'Indonésie à accélérer la transition vers une énergie propre grâce à l'application de la technologie, à la recherche et au développement, ainsi qu'à la formation thématique. Deuxièmement, l'Indonésie et le Canada peuvent collaborer sur des projets de gestion et de recyclage des déchets. Cette collaboration pourrait inclure la construction d'installations de recyclage modernes, le traitement des eaux usées, des programmes d'éducation communautaire sur l'importance du recyclage et l'élaboration de politiques soutenant une économie circulaire. L'Indonésie et le Canada ont également convenu de collaborer sur des projets de recherche et de développement mettant en synergie les ressources et l'expertise des universités, des instituts de recherche et du secteur privé. Les deux peuvent créer de nouvelles innovations en matière de technologie propre. Ces projets de recherche et de développement commun peuvent inclure le développement de carburants alternatifs, de technologies de réduction des émissions et de solutions pour accroître l'efficacité énergétique dans divers secteurs industriels. Cette coopération renforcera non seulement les relations bilatérales, mais contribuera également aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. L'Indonésie a un grand potentiel en tant que domaine de développement de technologies propres dans le monde. Il est donc urgent de l'adopter immédiatement. En matière de développement des énergies renouvelables, on estime que l'Indonésie dispose d'un potentiel de plus de 443,2 gigawatts provenant de l'énergie éolienne, solaire, hydraulique et de la biomasse. Même aujourd'hui, l'écosystème indonésien des démarrages de technologies propres connaît une croissance rapide. Il existe déjà environ 300 démarrages de technologies propres en activité. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
think it's pretty delicious. You can hide it even when you think you're being cool.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Pulau Merah ou l'île Rouge est une attraction touristique balnéaire située dans le district de Pesanggaran, dans la région de Banyuwangi, dans la province de Java Oriental. Sur cette plage, il y a une petite colline verte au sol rouge située près du rivage. La colline se visite à pied à marée basse. Sur l'île Rouge, il y a un temple utilisé par les Hindous pour effectuer des cultes ou des cérémonies mekis. Cette zone touristique est gérée par Perhutani Unit 2 Java S, KPH Banyuwangi Selatan. Le nom Pulau Merah fait référence à une petite colline sur la plage d'environ 200 mètres de haut. La colline en sol rouge est couverte de végétation verte, donc la couleur d'origine n'est pas très visible. La plage de Pulau Merah au sable blanc s'étend sur 3 km et convient donc également aux familles. Cependant, les vagues de Pulau Merah qui sont assez hautes ne sont pas très adaptées à la baignade, notamment pour les petits enfants. Les vagues de la plage de Pulau Merah sont assez difficiles et constituent un endroit idéal pour les amateurs de surf. Les vagues sur cette plage sont assez hautes, allant de 3 à 5 mètres, et conviennent aux amateurs de surf. Selon les résidents locaux, des touristes de France, d'Allemagne et d'Australie visitent souvent cet endroit. Les avantages de la plage de Pulau Merah par rapport à la plage de Plangkung incluent ces vagues qui peuvent être une destination pour les surfeurs débutants, amateurs et professionnels, avec une hauteur moyenne de 2 mètres. Ceci est différent de la plage Plangkung ou de Zilin qui ne peuvent être appréciées que par les surfeurs professionnels. En dehors de cela, la plage Pulau Merah est également plus facile d'accès avec des routes lisses et proches des zones résidentielles. Les fonds de la plage qui contiennent peu de coraux sont également plus sûrs pour les surfeurs. En 2013, la plage de Pulau Merah a accueilli une compétition internationale de surf. Selon l'Association indonésienne de surf, INSA, les compétitions internationales de surf populariseront cette attraction touristique auprès de la communauté mondiale. Chers auditeurs, si vous êtes à Banyuwangi et avez encore beaucoup de temps, s'il vous plaît de configurer votre temps pour visiter la plage de Pulau Merah. Ainsi se termine le magazine culturel pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons à nouveau demain avec un autre endroit intéressant à visiter. À demain! Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, La Voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec Maudry. Le sujet d'aujourd'hui est Wow. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Wow. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et les habitants du village culturel de Pampang, dans la ville de Samarinda, dans le Kalimantan oriental. Chris a exprimé son admiration lorsqu'il a vu les femmes Dayak aux longues oreilles. Bonne écoute.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Wow. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Wow. Banyak sekali. Très beaucoup. Anting, boucle d'oreille. Ibu, dam. Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow. Elle a beaucoup de boucles d'oreilles, cette dame. Telinga, oreille. Panjang, long. Konon, soi-disant. Masyarakat, habitant. Suku Dayak, tribu, Dayak. Wanita, femme. Cantik, belle. Anak muda, jeune femme. Tradition. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Wow, banyak sekali anting ibu itu. » Wow, banyak sekali anting ibu itu. En français, wow, elle a beaucoup de boucles d'oreilles, cette dame. Dans cet énoncé, il y a l'interjection wow, qui exprime une expression d'admiration. Le mot wow, a été utilisé par Chris pour exprimer son admiration pour les nombreuses boucles d'oreilles portées par une femme Dayak qu'il a rencontré. Chers amis, allez écouter un autre exemple de l'interjection wow, pour exprimer son admiration. Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. En français, wow, quel magnifique temple de Borobudur. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. En français, wow, la rivière Mahakam est vraiment grande. Chers amis, la tribu Dayak de l'île de Kalimantan a une tradition connue sous le nom de Telingaan Aru. La tradition consiste à allonger les oreilles en utilisant des boucles d'oreilles comme poids. Dans les croyances Dayak, la beauté d'une femme n'est pas jugée par son visage, mais par la longueur de ses oreilles. Mmh. Chargé tard, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
So hard I see. Life is bittersweet. Find me possibilities. Yeah, that's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'émission de magazine musical. Cette fois, je vais vous présenter une chanson de Ternate dans le nord de Moluques intitulée Nyong Manis. Ce jour tard, la chanson Nyong Manis a été composée par Bedik Poit. Les paroles racontent l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un homme au doux sourire et à la fine moustache. La jeune fille a prié Dieu. Si l'homme n'avait pas de partenaire, elle épouserait. Jour et nuit, elle pense toujours à cet homme. Cependant, s'il s'avère que l'homme a déjà une partenaire, ses sentiments d'amour resteront dans son cœur. Bonjour, Joëtard, voici la chanson de Ternate dans le nord de Moluques intitulée Nyong Manis, chantée par Sansa Soleiman. Bonne écoute!
C'est le retour. C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.